Aujourd'hui, à l'émission Parole à propos, nous analysons le verdict de la Cour suprême concernant le cours d'éthique et culture religieuse. Bonjour, bienvenue à Parole à propos. Mon nom est Pascal Denault. Aujourd'hui, nous faisons une émission spéciale sur le verdict rendu le 17 février dernier de la Cour suprême du Canada. Ça a marqué la fin d'une longue saga judiciaire qui opposait des parents catholiques à une commission scolaire du Québec. L'affaire a débuté en mai 2008 lorsque ces parents ont demandé à la commission scolaire que leurs enfants soient exemptés du nouveau cours d'éthique et culture religieuse. La directrice leur a refusé cette exemption. Il semble que les accommodements raisonnables, ce soit pour les autres cultures et non pas pour les Québécois pur laine. Alors, les parents se sont ensuite adressés au conseil des commissaires et ont également essuyé un refus. Et c'est alors que l'affaire est allée devant les tribunaux. Les parents ont plaidé devant la Cour supérieure du Québec que l'imposition de ce cours portait atteinte à leurs droits, à la liberté de conscience et de religion, ainsi que ce même droit pour leurs enfants. Ils ont perdu devant la Cour supérieure, mais les plaignants ont fait appel de ce jugement à la Cour d'appel, qui a accepté d'entendre leur cause, mais qui a entériné la décision de la Cour supérieure. Ils étaient convaincus d'être lésés dans leurs droits malgré l'opinion de ces juges, alors ils ont poursuivi leur bataille en s'adressant au plus haut tribunal du pays, qui a trouvé que l'affaire méritait d'être entendue. Alors, après un long parcours de 4 années, plusieurs centaines de milliers de dollars plus tard, les parents ont à nouveau essuyé un revers juridique. Alors, il ne reste plus de recours, en tout cas juridique pour l'instant, et ils sont forcés de reconnaître que l'autorité de l'État prévaut sur l'autorité parentale en matière du cours SER, et peu importe les objections de conscience des parents ou des enfants dans cette matière. Alors, pour discuter de cette affaire, je reçois Patrick Andries, qui est de la Coalition pour la liberté en éducation, le pasteur Stéphane Gagné du Réseau chrétien de la Société québécoise, et Clément, un habitué de notre tribune et un auteur sur notre blog qui a aussi suivi de près cette affaire. Bonjour, messieurs.
Bonjour. Bonjour.
Alors, merci de votre présence. Patrick, je vais commencer avec vous. Vous avez assisté à toutes les audiences. Depuis le début, vous avez accompagné les parents dans tout ce long processus. Qu'est-ce que vous avez pensé du procès et du verdict de la Cour suprême?
D'abord, pour parler du verdict rapidement, dans une première approche, bien sûr, nous étions déçus. Mais pour ma part, je n'étais pas nécessairement surpris. Ayant suivi justement ces procès, j'ai remarqué tout de suite qu'il y avait un certain nombre de juges qui, par leur gestuelle ou leur question, n'étaient pas sensibles aux préoccupations des parents. Mmh. Alors, pour ce qui est du jugement, il me déçoit non seulement dans sa conclusion, mais même dans sa superficialité. Il faut comprendre que La Cour suprême n'a pas dit grand-chose, en fait. Elle dit, on ne peut pas déterminer à ce stade-ci, en état de la preuve, avec ce qui nous a été fourni, si le cours va à l'encontre de la conscience des parents. Alors, d'une part, on a souvent l'impression que les parents n'ont pas fourni de preuves, si on lit les journaux, par exemple, mais ce n'est pas le cas. Il y a eu 2 théologiens et 1 philosophe, et 1 sociologue qui ont remis des expertises ou des écrits en première instance, et nous pensions que c'était relativement bien étayé. Mais jamais les juges, par exemple, ni en première instance, ni en Cour suprême, ne se sont penchés sur le sujet. Ils n'ont jamais fait un commentaire même sur ces expertises. Quant à la Cour d'appel, par exemple, elle n'a en fait pas voulu entendre les parents. Sous des motifs, pour moi, en partie fallacieux, deux des trois juges ont dit que les enfants n'étant plus à l'école publique, ils n'étaient plus soumis au cours ECR, et donc la question était devenue théorique et qu'il ne fallait plus l'aborder.
Pouvez-vous nous dire sur quoi devait trancher exactement la Cour suprême?
Ben, selon nous, la Cour suprême devait trancher pour savoir si le refus d'exemption d'exemption demandée pour secours était constitutionnelle. Et en fait, la Cour, dans des attendus, très prévisibles, s'est penchée sur la constitutionnalité du cours ECR, ce qui n'est pas tout à fait la même chose.
Oui, parce que c'est ce qu'on lit dans le verdict. On a l'impression que la Cour nous dit le cours ECR est constitutionnel, alors que c'est pas vraiment ça qui était le litige.
Non, nous on dit, c'est, on pourra parler plus tard et d'autres intervenants pourront en parler, c'est que bon, on ne pouvait pas refuser aux parents, pas de la manière dont c'était fait en tout cas, on ne pouvait pas refuser l'exemption. Hein, c'était aller contre le droit, entre autres administratif québécois, et la loi sur l'instruction publique. Et rien à voir avec la Constitution canadienne en tant que telle. On y reviendra. Mais même dans le jugement, par ailleurs, la juge Deschamps confond souvent plusieurs choses, même si ça leur a été expliqué. Deschamps, par exemple, va vous dire, sort toute une panoplie de slogans assez typiques multiculturalistes sur le Canada. Elle dit en gros, c'est merveilleux, l'État doit être laïque, il doit être neutre par rapport à toutes les religions. Et donc, c'est parfait qu'il y ait un cours qui soit comme l'État, si on veut.
Oui, je lis un extrait, ça dit dans le jugement. « Suggérer que le fait même d'exposer des enfants à différents faits religieux porte atteinte à la liberté de religion de ceux-ci ou de leurs parents revient à rejeter la réalité multiculturelle de la société canadienne et méconnaître les obligations de l'État québécois en matière d'éducation publique.
» Mais ça... Enfin, je vais juste terminer. J'ai deux points encore là-dessus. La première, c'est que les parents ont jamais prétendu. Bien au contraire. Et dès le début, il y a des preuves, évidemment judiciaires, mais également des preuves écrites dans la National Post, par exemple, qui a bien voulu publier une réponse de la mère, mais alors que la presse l'a refusée, identique, pour dire non, je n'étais pas contre l'apprentissage de connaissances. J'en avais à la manière dont c'était dit. Et l'autre chose, c'est, donc c'est faux, hein, et on représente ça, on dit ça souvent des parents, et c'est faux. C'est tout simplement faux. Et l'autre, c'est une autre partie du jugement de Deschamps. C'est où elle dit, par conséquent, suivant une approche réaliste, la neutralité de l'État est assurée lorsque ceci ne favorise ni ne défavorise aucune conviction religieuse, en d'autres termes, lorsqu'il respecte toutes les positions à l'égard de la religion, y compris celle de n'en avoir aucune. Mais il y a une confusion fondamentale entre la neutralité de l'État, qui est bonne dans la laïcité, et puis ce genre de neutralité qu'on veut imposer aux enfants face aux religions, hein, et à l'athéisme, à ceux qui ont des convictions et ceux qui n'en ont pas. Hein. Et car c'est ça qu'il s'agissait. Alors les parents ne sont pas contre les connaissances sur les autres religions ou les positions éthiques, ils sont contre la neutralité vis-à-vis de tous ces choix. Parce que pour eux, ce n'est pas une éducation qui respecte leurs croyances. Ouais. Dire que les parents peuvent corriger à la maison ce que l'école aura légitimé, hein, de son autorité pendant 11 ans dans un cours répétitif, hein, ce n'est qu'une autre pirouette de Deschamps. La mission des parents n'est pas de corriger l'école. Pour nous, hein, la mission, celle de l'école, c'est d'être le prolongement d'éducation philosophique et religieuse et morale des parents qui sont par ailleurs tout à fait respectables. Et donc, il y a véritablement une confusion entre le pluralisme d'une société qui ne justifie pas que l'État doive... Hein, ce pluralisme d'une société, pour nous, ne doit pas justifier que l'État impose à chaque enfant québécois la diversité, le pluralisme des repères et la pluralité des normes. Hein. Ça, c'est pour moi, c'est le truc fondamental. Mmh. Et Deschamps passe tout à fait au-dessus de ça, et ne parle pas des expertises, ne va pas à ce niveau-là, alors qu'on lui a dit ça. Hein.
Ouais.
Donc, je suis très déçu, et là, je finis là, je suis surtout très déçu par la piètre qualité du jugement. En fin de compte, il dit pas grand-chose, si ce n'est qu'il rend l'épreuve beaucoup plus difficile pour les parents pour obtenir une exemption. Et sur le fond, il n'y a pas grand-chose.
On a l'impression, en lisant ça, que l'idée était déjà faite avant même d'entendre les plaidoiries.
En tout cas, pour Deschamps, c'était évident par sa gestuelle au tribunal.
Ouais.
Et par ses questions.
Clément, toi aussi, tu as suivi ça depuis longtemps, tu as participé même à des efforts et des manifestations publiques pour s'opposer à ce cours. Comment est-ce que tu perçois la chose? Comment est-ce que quand tu as entendu le verdict, quelle a été ta réaction?
Bon, je m'y attendais un peu moi aussi, là, vu qu'on sait, on connaît déjà les orientations idéologiques de la Cour suprême du Canada. Cependant, j'étais quand même frappé par toute leur argumentation des juges, selon laquelle les parents, en fin de compte, n'ont pas fourni une preuve suffisante pour appuyer leur demande d'exemption. si on lit l'article 222 de la loi sur l'instruction publique du Québec, je cite un extrait. « Pour éviter un préjudice grave à un élève, la commission scolaire peut, sur demande motivée des parents ou d'un élève, l'exempter de l'application d'une disposition du régime pédagogique. » Donc, on lit « Pour éviter un préjudice grave, le préjudice n'a pas besoin d'être effectif. » Maintenant, bon, il y a un débat de juristes. Est-ce qu'il y a quand même besoin d'avoir une certaine preuve qui doit être apportée? Peut-être. Dans ce cas-là, ça serait une preuve qu'il y a un risque de préjudice. Et à ce niveau-là, comme M. Andries l'a noté, la Cour suprême met la barre tellement haute que dans le fond, c'est quasiment impossible d'apporter une preuve suffisante selon leur caprice.
Oui, et excuse-moi de t'interrompre, mais je trouve ça un peu ridicule la façon qu'on lit dans le jugement. Ça dit que les parents devaient démontrer que le programme ECR constituait objectivement une entrave à leur capacité de transmettre leur foi à leurs enfants. Mais je veux dire, c'est sûr qu'à la maison, les parents peuvent transmettre leur foi comme ils veulent. Alors, c'est impossible, si on dit c'est ça le litige, que quelque éducation que ce soit, à moins que l'école aurait gardé les enfants enfermés puis leur empêché d'être exposés à la foi de leurs parents, ça pouvait pas les empêcher. Mais est-ce que l'éducation va aller à l'encontre? Est-ce que ça va venir finalement miner l'autorité parentale et l'instruction que les parents veulent donner? Et c'est clair qu'il y avait un conflit entre l'approche du cours ECR où on veut prétendument objectivement présenter toutes les religions, alors que bon, que les manuels, bon, faut distinguer les manuels et le programme, mais les manuels, qui est l'outil, qui est le cours, parce que même si l'intention du cours est quelque chose, mais dans la réalité, c'est le manuel qui est le cours, ben, il y a beaucoup de ces manuels-là qui ne présentent pas objectivement l'ensemble des religions, qui semblaient favoriser, il n'y avait pas de neutralité, et les parents en ont fait la preuve de cela, et en cela, leur droit était lésé. Mais la façon que c'est formulé ici, ça rend impossible la tâche des parents de prouver qu'ils pouvaient plus enseigner.
Mais je pense qu'il y a un truc qui est très important, parce qu'il faut faire comprendre aux gens, les gens qui pensent que c'est juste que ECR est simplement un cours où on va aborder différentes religions, et puis gentiment après, en éthique, on va parler des choses qui sont bien, hein, et qui ça ressent, ils se leurrent. Hein, et c'est une grosse erreur qui est bien sûr qu'on laisse survivre dans les médias et que, par exemple, j'ai encore entendu hier la ministre des Champs parler, elle dit « Ah, c'est merveilleux, ce cours qui présente des connaissances sur le catholicisme et le protestantisme, etc. » Elle n'a pas parlé d'autres religions, hein, qui ont fondé le Québec, qui peut être contre ça, etc. Et donc, elle tend à vouloir caricaturer les parents et à les montrer comme des gens obtus. Le jugement ne parle jamais des expertises, les médias non plus, ils n'ont presque pas parlé, par exemple, de la conférence de presse qu'on a donnée hier en donnant la substantifique moelle de ce que présentait l'avocat. Hein, et les politiciens comme Charest et Hélène Beauchamp mythifient le cours. Alors, de quoi est-ce qu'il s'agit, par exemple? Dans le cas de la partie religieuse, le programme ne consiste pas en une simple présentation des religions du monde. Hein, il va plutôt adopter une approche qui discrédite les religions aux yeux de l'élève, en l'obligeant l'enseignant a toujours présenté, et ça c'est dans le cours, hein, c'est dans le programme. Je suis sûr qu'il y a plein d'enseignants qui suivent pas le programme, mais dans le programme, l'enseignant doit toujours présenter des contenus religieux en juxtaposition avec des êtres mythiques et surnaturels. Alors on va trouver, par exemple, on va parler de la nativité, hein, du petit bébé Jésus en primaire, on va pas dire vraiment qui c'est, hein, c'est juste une histoire intéressante. Et puis on va parler juste après du récit du réveillon des souris, et puis d'une légende amérindienne, parce que ça, c'est trace d'un amour. Hein? Et puis, on va demander aux enfants de comparer, ou on va comparer des trucs sur la nativité, tu sais, les enfants, etc. Mais quel est le message? Et c'est là où le juge, justement, Lebel, dans sa conclusion, parle de folklorisation possible, et de, je pense qu'il parle de, je sais pas s'il utilise le mot risque, mais c'est un mot à peu près similaire. Donc, c'est pas vrai que c'est un cours encyclopédique. D'ailleurs, dans le rapport Quérin, pardon, je vais arrêter. Dans le rapport Quérin, elle avait bien montré que le cours ne s'intéressait pas aux connaissances. C'est l'attitude vis-à-vis des religions qui est importante. C'est l'attitude vis-à-vis de la diversité ou de l'éthique, parce que ça en est même chose pour l'éthique, hein. Ceux qui pensent que dans la partie éthique, on va parler du bien, je l'ai lu dans, par exemple, les commentaires de certains, sur les médias, là, ils disent, mais le cours éthique, c'est bien, on va parler de ce qui est bien et bon. Mais c'est pas vrai. Si, par exemple, il faut parler de l'avortement, il est impossible. Bon, il y a deux possibilités. Soit le cours va dire l'avortement, c'est bien, ce qui est bon. Mais il ne peut pas faire ça. Il ne peut pas, parce que sinon, il est plus neutre.
Ouais.
Et donc, le cours, ce qu'il fait, c'est qu'il ne dit rien là-dessus. Mais alors, il ne dit pas ce qui est bien. Donc, pour moi, c'est même pas une éducation. On va mettre les enfants ensemble, et puis ils vont parler, et puis ils vont aboutir à un consensus sur la question.
Et ce qui est choquant, c'est que finalement, le choix est retiré. Anciennement, on avait le choix, enseignement religieux catholique, enseignement religieux protestant, ou un cours de morale plus général. Mais là, il n'y a même plus de choix. C'est imposé, c'est unilatéral, c'est la même chose pour tout le monde.
Mais non, ce cours doit plaire à tout le monde. Il est fait pour tout le monde. Ouais. Ça part d'une fiction.
Pasteur Gagné, j'aimerais vous entendre. Comment vous avez perçu la chose? Est-ce que vous avez des échos aussi des gens de votre réseau? Comment est-ce que c'est perçu chez vous?
Oui, définitivement. Et d'ailleurs, au milieu des cercles de pasteurs, lorsque le cours a été annoncé à ses débuts, les gens étaient pas trop inquiets parce qu'ils en recevaient la même présentation que ce qui est écrit sur papier. Donc, ça pouvait sembler une bonne chose sur papier. Maintenant, on se retrouve 3-4 ans plus tard et les enfants de ces mêmes pasteurs-là reviennent à la maison et commencent à remettre en question tout ce qu'ils ont appris depuis leur jeunesse pour dire ben, « qu'est-ce qui dit que papa, que ta croyance est supérieure à une autre après tout ?» Et donc, tout ça leur vient évidemment du cours ECR. Et là, c'est intéressant de voir que l'Église chrétienne, qui s'est peut-être pas impliquée autant qu'elle aurait dû au commencement, commence à réaliser après 3 ou 4 ans que ce cours-là est menaçant. Mais là, tu dis, là, on s'est de penser que ça, c'est seulement après 3 ou 4 ans d'endoctrinement du cours. Lorsque ça fera 10 ou 11 ans que les jeunes auront eu 10 ou 11 ans consécutifs d'endoctrinement de ce cours-là et qui vont prendre d'assaut la génération adulte et qui vont commencer à prendre des positions clés au sein de la société, c'est de voir qu'est-ce qui vont être les répercussions de 10 ou 11 années d'endoctrinement année après année. Qu'est-ce qui va arriver avec l'avenir de tout ce relativisme qui va avoir été inculqué là, de façon stratégique dans l'esprit des jeunes, je crois qu'on peut s'attendre au pire.
Je relance une question parce que vous utilisez le mot endoctrinement et dans le jugement, ça dit le fait d'exposer les enfants à une présentation globale de diverses religions sans les obliger à y adhérer ne constitue pas un endoctrinement des élèves qui porterait atteinte à la liberté de religion.
Mais si je peux revenir tout de suite là-dessus, c'est que ce jugement-là, il est précisé d'ailleurs, a été finalement rendu sur la base du curriculum lui-même, c'est-à-dire ce qui est présenté sur papier. Alors que l'on sait très bien à l'heure actuelle, puis Clément et Patrick savent très bien que sur papier et sur le terrain, on est à même de se rendre compte que ce n'est pas du tout la même chose. Alors que sur papier, par exemple, il est dit que les enfants ne doivent pas être entraînés à prendre part à des activités de culte et ainsi de suite. Sur le terrain, on a plusieurs cas anecdotiques comme quoi ça a été fait. Moi, je suis pasteur à Granby. Eh bien, c'est bien connu et ça l'a fait les pages des journaux régionaux ici que un enseignant de Granby, dans le cadre du cours d'éthique et culture religieuse, a fait venir de Montréal des personnages principaux de la secte des Hare Krishna, qui, une fois ici à Granby, au sein du cours, ont fait chanter les enfants, leur ont fait réciter des mantras et toutes ces choses qu'on nous avait promis qui n'arriveraient pas.
Mm-hmm. Alors si ça constitue un endoctrinement, même si le programme comme tel dit on va juste s'exposer objectivement.
Allez-y. Oui, pardon, je suis désolé. Mais c'est vrai, il y a des dérapages. Je peux vous en citer un autre, si vous voulez. Un cours qu'on m'a raconté hier, une mère qui l'a vécu, sa jeune fille est au primaire, et à un moment donné, le professeur lui demande « Est-ce que vous avez déjà vu des écureuils bleus ? Est-ce que ça existe ?» Alors la classe regarde. « Non. Bah, d'accord. » Alors fermez les yeux, les enfants, maintenant, et imaginez, est-ce que vous voyez un écureuil bleu ? Oui, moi je vois. Bien, eh bien... Dieu, c'est comme ça. On peut l'imaginer.
Ouais.
Mais ça c'est des dérapages. Et il y en a toute une série.
Hein. Alors toi, Clément, tu en 2008, là, tu l'as vécu. As-tu été endoctriné?
Écoute, bon, endoctrinement est un terme fort. Quand je juge que endoctriner, c'est simplement transmettre une doctrine. Et le cours Océane, c'est pas seulement de l'exposition à des faits sur différentes religions. C'est une incitation à participer. Et on le voit, comme dans le cas de Granby avec les Hare Krishna, il y a vraiment une pression sociale et une pression administrative sur les jeunes à participer à différents rituels de des religions qui ne sont pas la leur. On peut citer aussi le cas récent à Jonquière, où des élèves d'une école publique et ont été forcés par leurs professeurs de porter un hijab, un voile islamique. Wow. Donc oui, on peut parler d'endoctrinement. C'est tout à fait liberticide.
Mm-hmm. Est-ce que le cours entre aussi dans des questions d'éthique sexuelle, c'est-à-dire oui.
Oui, mais je veux quand même revenir sur le fond. Ce n'est pas un cours qui simplement, là, Madame Deschamps, là, fait la fausse naïve. Le cours ne fait pas qu'exposer des faits. Je répète, le cours va obliger en fait à présenter les faits d'une certaine manière. C'est pourquoi le gouvernement s'opposait à la manière dont Loyola exposait les mêmes faits. D'accord? Loyola dit depuis 25 ans, moi j'ai un programme sur les religions, mais je présente toujours le point de vue catholique, et si on nous demande ce qu'on pense, nous, on le dit clairement. Et en fait, contrairement à ce qu'impose le cours d'éthique et de culture religieuse, on ne mêle pas sans cesse les personnages mythiques, Superman ou Spider-Man, avec Jésus, et on ne mélange pas tout ça à une sauce. On fait réellement 2 mois d'une certaine religion quand on commence à faire, on fait cet apprentissage à la fin du secondaire, puis 2 mois sur le judaïsme, 2 mois sur l'islam, etc. Ce qui est prescrit, enfin ce qui est interdit, proscrit par le programme.
Ouais.
Pour ce qui est de la morale sexuelle, c'est évident que c'est mentionné. Dans tout son volet éthique, le cours va aborder des points de vue qui sont hautement controversés. J'essaie de trouver une citation. Dans le programme page 727 et page 818, le programme dit « Dans un cas comme dans l'autre, en éthique, il faudra que la situation devra être porteuse de tensions ou de conflits de valeurs, d'accord, afin de faire ressortir le besoin de créer ensemble les valeurs qui favorisent le vivre ensemble. » Alors, ce que ça veut dire, c'est qu'on va aborder des sujets épineux, controversés dans la société, l'homosexualité, la drogue, j'en passe, et ensuite, ensemble, dans la classe, on va trouver des valeurs, de créer des valeurs qui favorisent le vivre ensemble. C'est donc, on est en train de faire en sorte que, en classe, on aborde ces choses-là. Et d'ailleurs, ah oui, j'avais le clonage humain, l'eugénisme, le suicide, la peine de mort, l'euthanasie, l'avortement, page 842 du programme. Ouais. Et à remettre en question l'ordre social et les lois, page 840 du programme. Et cette construction commune collective sera de la classe, ils vont venir à une solution commune, sera gérée par des règles strictes de dialogue où le jeune devra questionner ses jugements de préférence, de prescription ou de valeur, c'est-à-dire ce qu'il a appris de la maison.
Ouais. Finalement, cette prétention à la neutralité, puis on va aborder tout ça dans un angle objectif, c'est vraiment une utopie. C'est une utopie de croire que la neutralité existe, de croire qu'on peut réellement faire de l'éducation. Et même quand on essaie comme ça de demeurer objectif et de présenter de manière, si on veut passer l'expression, fair and balanced, tous les points de vue, même ça, c'est pas neutre comme approche. C'est impossible d'avoir une neutralité idéologique. Tout le monde favorise une idéologie. Pasteur Gagné, qu'est-ce que vous suggérez à vos gens pour l'avenir, pour les croyants spécifiquement, qui constituent le principal de notre auditoire? Qu'est-ce qu'ils doivent attendre de l'avenir pour leurs propres enfants dans le système d'éducation publique?
Écoutez, c'est sûr que on sait tous que le combat n'est pas encore terminé. on n'a pas eu le temps d'aborder ça, mais bon, le jugement nous a quand même laissé la porte ouverte
oui,
à dire
vous
que...
permettez, ça dit effectivement dans le jugement que il se peut que la situation juridique évolue au cours de la vie du programme ECR, la linéa 58.
Exactement. Donc, avec cette phrase et quelques autres, je peux commencer par rappeler que il va falloir que les enseignants du cours d'ECR, et surtout ceux qui dérogent un peu, là, fassent très attention, parce qu'il est certain que nous, on garde l'œil ouvert et que tout ce que la Cour nous dit, c'est que l'élément de preuve n'était pas suffisant cette fois-ci, mais comme on sait de la façon que ça venait sur le terrain, on peut facilement, dans les prochaines années, nous fournir des éléments de preuve suffisants. Alors ça, d'un point de vue seulement pratique, du point de vue temporel, c'est pas terminé là-dessus. Maintenant, du point de vue des gens de foi, puisque c'est la majorité qui constitue vos auditeurs, moi, je dis aux gens, écoutez, moi, je suis déçu. Je n'étais pas surpris lorsqu'on était en cour d'appel, en cour supérieure et tout ça, mais je m'attendais que réellement la plus haute instance du pays aurait vraiment une attitude beaucoup plus digne de ce qu'elle est censée être. Lorsque j'ai vu les comptes rendus des audiences, largement grâce à notre ami Patrick sur son site, j'ai été atterré plutôt de voir les questions que certains juges ont posées, et donc je m'attendais peut-être un verdict défavorable. Par contre, qu'est-ce qu'on peut dire, que ça peut vouloir dire pour les chrétiens maintenant? Peut-être une prise de conscience. Vous voyez, dans notre génération, dans l'heure actuelle, on sait, je crois que vous en conviendrez, que on a, disons, avec le système de garderie, qui lui aussi est un peu dans le même bateau, hein, on a un petit peu confié nos enfants à l'État, déjà là, avant même l'âge d'aller à l'école. Ensuite, d'autres ont fait le choix de les confier à notre système scolaire et on s'est un petit peu déresponsabilisé. Et je pense que des jugements comme ça, qui resserrent la vis un petit peu aux gens de foi et aux libertés dans notre pays, vont peut-être nous faire prendre conscience que on doit dépendre davantage de Dieu et peut-être se responsabiliser maintenant à nouveau face à nos enfants.
Amen. Je pense que c'est la leçon qu'il faut retenir, de ne pas se délester des responsabilités que Dieu nous donne et de ne pas les reléguer à l'État. C'est toujours un danger pour les libertés par la suite. Je m'excuse de vous avoir interrompu. Je veux juste donner un dernier mot à chacun des participants. Clément, est-ce que tu voudrais dire quelque chose en terminant?
Oui, ben c'est ça. Alors, pour prendre la suite de ce que vous disiez, il n'y a plus beaucoup de portes de sortie. La seule porte de sortie, c'est de trouver une école qui n'enseigne pas réellement le programme tel que le ministère veut qu'il soit enseigné. Donc, qui enseignerait différentes religions, mais dans une perspective chrétienne. Or, ces écoles-là ont souvent des troubles avec le ministère de l'Éducation et sont fort rares. Ou sinon, il reste l'école maison, qui est une autre alternative.
Et il faut donc beaucoup de détermination pour y arriver, mais je pense qu'il y aura beaucoup de fruits également à moissonner, beaucoup de bons résultats de ces efforts-là. Et Patrick, je vous donne le dernier mot.
Oui, on peut faire l'école à la maison, on peut envoyer ses enfants à Loyola ou à d'autres écoles qui ne donnent pas le cours même, il y en a qui ne donnent pas du tout. Mais ce qui est important, si vous envoyez vos enfants à l'école, publics qui sont soumis à ce programme obligatoire, parlez-leur, sachez ce qui se passe et rapportez tous les incidents à la clé, la coalition pour la liberté en éducation, car tous ces incidents peuvent nous aider à relancer le débat. Hein, et si vous cotisez comme nous à la clé, et si nous avons assez d'argent, il n'est pas exclu que nous ayons une mauvaise surprise pour la ministre de Lynn Beauchamp d'Éducation qui croit que le dossier est réglé. Il n'est pas exclu, grâce aux ouvertures qui sont dans le jugement, que nous présentions cette fois-ci une preuve plus étayée et plus étoffée.
Voilà ce qui arrive quand on s'attaque à un village d'irréductibles gaulois. Eh bien, merci messieurs de votre participation et puis merci chers auditeurs d'avoir écouté. On vous invite à partager cette émission si vous le voulez, qui est diffusée donc sur les ondes de C'est Foi, mais également sur le blog Un héros dans le net. Faites-la circuler. Vous êtes invité également à vous joindre à la discussion, commenter. Ça nous fera plaisir de discuter avec vous. Alors passez une bonne fin de journée. Au revoir.